Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, inimaginable, il y a encore 2 semaines, 15 millions d'Italiens vivent désormais confinés.
C'est tout le nord du pays qui vit cloîtré de Milan à Venise pour tenter d'endiguer l'épidémie de coronavirus. Une situation inédite en Europe, à quelques kilomètres de la frontière avec la France. Mais qu'est-ce que ça implique concrètement ce lundi matin? Qu'est-ce qui a changé? Question posée à Antonio qui vit à une cinquantaine de kilomètres de Milan.
D'après ce qu'ils nous ont dit, les policiers et les militaires passeront dans les rues pour vérifier si les gens sont dehors inutilement et nous renvoyer chez nous au cas où. Il y a plus de circulation, c'est-à-dire on peut plus se déplacer en voiture pour aller travailler, mais il faut que ce soit fait toujours avec il faut qu'on demande une autorisation particulière avant de quitter la maison. Alors les magasins, apparemment tout a réouvert, c'est toujours filtré, c'est-à-dire tout le monde ne rentre pas en même temps, rentre par groupe. Ils ont réouvert les bars qui seront ouverts de 6h du matin à 6h du soir, en faisant bien attention que dans les bars, il y a assez d'espace pour que les gens aient 1 mètre entre eux. C'est toujours à la base le moins de rassemblement possible et le moins de contact possible entre les gens. Qu'il y a plus de panique, il y a plus de sensation d'être enfermé. Moi, j'habite un petit quartier résidentiel où quand même il y avait, on va dire, une petite vie. Là, c'est mort, quoi. Il n'y a plus rien.
Cet habitant de la région de Milan joint un instant pour RTL par Laura Mauchi. En France, on n'en est pas encore là, même si l'heure est grave. Écoutez le ministre de la Santé qui a donné le ton hier soir.
Les Français ont toujours su faire face aux situations les plus complexes. Les plus difficiles. Cette fois-ci encore, nous serons là à vos côtés.
Olivier Véran à l'issue du nouveau Conseil de défense à l'Élysée où l'interdiction des rassemblements de plus de 1000 personnes a donc été décidée. Jusqu'à quand, on ne sait pas encore. Va-t-on vers une fermeture générale des écoles? On va le voir dans un instant. Mais tout d'abord, ce reportage qui montre peut-être les limites du système actuel. Dans l'Oise, où sont apparus les premiers cas, les établissements scolaires sont fermés, mais pas dans le département voisin du Val d'Oise. Les habitants qui habitent entre les deux ont un peu de mal à comprendre, Mourad Jabari.
Oui, moins de 500 mètres à pied séparent les deux clochers. Chambly, Persan, deux villes, deux départements.
C'est côte à côte, ça se touche. On peut le faire à pied, donc bizarre. Mais là-bas, il n'y a pas le virus. Pas encore.
Seule la rivière Loise marque la frontière entre ces petites communes. Pourtant, à Chambly ce matin, les 6 écoles et le collège sont fermés. Une ligne de démarcation difficile à comprendre pour les habitants.
Le virus passe pas la frontière.
J'ai un petit peu de mal à comprendre. On voit aujourd'hui, il n'y a personne. Généralement, on peut pas se garer. Tout le monde est resté chez soi, tout le monde est confiné.
Soit on bloque tout et on arrête tout dans tous les villages, soit on laisse ouvert.
Il y a vraiment des choses qui ne sont pas logiques.
Les mesures de précaution, oui, je comprends tout à fait. Maintenant, les frontières qu'on applique au niveau ville, c'est incompréhensible.
Des mesures devenues un casse-tête pour les frontaliers qui vivent à cheval sur les deux communes, comme Stéphanie, maman d'une petite fille.
Je suis enseignante sur Persan et ma fille est scolarisée à Chambly, donc du coup, je vais devoir la garder pendant 15 jours. Et on est beaucoup de collègues dans le cas, ça impacte aussi Persan, même sans le vouloir. C'est un peu étrange.
Un problème pour les parents, mais une joie pour les enfants scolarisés du bon côté de la frontière.
Reportage signé Mourad Jabari.
Alors, en cas de stade 3, toutes les écoles de France seront-elles fermées? C'est encore une question que se posent de nombreux parents, et c'est la question de 8h.
Et c'est avec vous, Martial You, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, les écoles sont fermées dans l'Oise, dans le Haut-Rhin, et même à Ajaccio. Alors, demain ou après-demain, partout ailleurs?
Ah non, ce n'est pas encore à l'ordre du jour, ça. Il y a déjà, donc, ce matin 300 000 élèves qui n'ont pas classe dans les départements touchés, mais Jean-Michel Blanquer est très clair, il n'est pas question de fermer tous les établissements, même si on devait passer au stade 3. Dans l'Oise, le Haut-Rhin et Ajaccio, on observe de près la situation pour voir justement si la fermeture des écoles permet de ralentir la propagation du virus ou pas. C'est vraiment ça la priorité du moment, parce qu'on estime que plus on retardera le stade 3, c'est-à-dire le moment où tous les départements du pays auront enregistré des cas, plus on retarde ce moment et plus on limite l'ampleur des décès. Si ça n'a pas d'effet, la fermeture des écoles, on peut très bien faire revenir les élèves malgré un stade 3.
Mais il y a des mesures supplémentaires qui sont prises dans les écoles?
Oui, l'État demande aux communes de renforcer l'hygiène dans les sanitaires des écoles déjà, parce qu'on sait que les petits ne se lavent pas les mains. Les écoles doivent donc disposer de savon aux toilettes et de gel hydroalcoolique en priorité. Les voyages scolaires sont également suspendus jusqu'à nouvel ordre à l'étranger, dans les zones françaises contaminées, et ils sont aussi déconseillés partout sur le territoire. Et puis on invite aussi tous les directeurs des 11 départements limitrophes des clusters autour de l'Oise Val-d'Oise et du Haut-Rhin notamment. Donc on parlait du Val-d'Oise tout à l'heure, ça en fait partie, la Seine-Maritime aussi. Les directeurs doivent être vigilants sur l'accueil des enseignants ou des élèves venant de ces zones touchées. Ils pourraient être amenés à fermer leurs établissements dans les prochains jours si le juge nécessaire.
La question de 8h avec Martial You.
RTL 8h05.
Et donc nouvelle réunion de crise ce matin à Bercy.
Une cinquantaine d'acteurs économiques ont rendez-vous avec Bruno Le Maire à 10h, alors qu'Édouard Philippe lui-même a dit il y a quelques jours craindre un choc pour la croissance française due à la crise du coronavirus. Le secteur du tourisme est en première ligne. Laurent Tournier dirige un hôtel près de Bordeaux. Il est surtout le président des hôteliers de Gironde.
C'est la période où en général on engrange les réservations pour le printemps, pour les périodes de avril, mai, juin. Je ne vous cache pas que le téléphone ne sonne pas beaucoup en ce moment. C'est vrai qu'on n'avait pas besoin de ça. Et la situation, pour certains en tous les cas, ceux qui sont le plus tournés vers le tourisme étranger, eux sont extrêmement impactés. Voilà, là on est passé quasiment à 100% de perte de cette clientèle-là.
Propos recueillis par Denis Grandjou. Une nouveauté à partir de ce lundi, on peut désormais demander à son médecin de se faire prescrire une ordonnance pour un test en laboratoire. Jusqu'à présent, c'était réservé aux seuls hôpitaux. Nous vous disions la semaine dernière que les prix des gels hydroalcooliques étaient désormais plafonnés en pharmacie. C'est ce qu'a imposé le gouvernement via un décret pour mettre fin à certains abus. Mais dans la réalité, ce n'est pas si simple. Reportage de Romain Hougues.
Oui, dans l'officine de Laura à Neuilly-sur-Seine, les clients défilent, nombreux, mais le rayon gel hydroalcoolique reste vide et ce n'est pas prêt de changer.
Si nous arrivons à trouver certains fournisseurs, les prix de vente proposés pour nous sont inférieurs au prix auquel on devrait les vendre aux patients, ce qui nous ferait vendre à perte. Je refuse tout simplement
de
les acheter.
Comme elle, beaucoup de pharmaciens cessent tout simplement de s'approvisionner. Pas question de vendre à perte. D'autres ne respectent pas le décret. Fabien est pharmacien à Paris.
On nous demande de distribuer les masques bénévolement. On le fait. Là, on nous demande de vendre des solutions hydroalcooliques à 3 euros les 100 millilitres. Moi, personnellement, je vais le faire. Je comprends complètement que certains confrères aient beaucoup de mal avec cette mesure.
Mais les consommateurs, eux, ne sont pas de cet avis. Franck est indigné par de telles pratiques.
S'il y a des filous qui commencent à vouloir vendre ça à des sommes rondelettes pour faire leur blé, non, c'est pas honnête.
Les pharmaciens sont désormais autorisés à fabriquer eux-mêmes leur gel, une manière de se détourner des fournisseurs qui gonflent les prix et peut-être d'enrayer un peu la pénurie.
Reportage signé Romain Hougues.
Alors que la France s'apprête à passer au stade 3, quelle est la situation aujourd'hui dans nos hôpitaux? On posera la question à 8h20 au professeur Frédéric Adnet, qui est chef du service des urgences à l'hôpital Avicenne de Bobigny et directeur du SAMU de Seine-Saint-Denis.
RTL Matin, 8h07.
Dans un instant, panique sur le pétrole et ce n'est pas sans lien avec le coronavirus.
RTL Matin.
RTL 8h08, la suite du journal. Jérôme Florin, Yves Calvi.
Et voilà que le coronavirus fait tousser aussi les producteurs de pétrole.
Oui, quand le premier client mondial, à savoir la Chine, n'achète plus, la machine s'enraye devant le refus de la Russie de réduire sa production. L'Arabie Saoudite est passée à l'offensive en baissant ses prix de manière spectaculaire, moins 20%. On n'avait pas vu ça depuis deux décennies. Et si ça continue, ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour les consommateurs que nous sommes, dit Philippe Chalmin, professeur d'économie à Paris Dauphine.
On était vendredi à $50 le baril. Dans les premières négociations ce matin, le baril de Brent était tombé à $36 le baril. Ça fera grossièrement que le prix du pétrole aura été divisé par deux, ce qui aura bien entendu des conséquences importantes à la pompe. Dans une dizaine de jours, on pourrait avoir un litre d'essence plus proche de 1 euro que de 2 euros. Et ça fera partie des rares avantages et des rares conséquences positives du coronavirus.
Deux dernières précisions avant de passer au reste de l'actualité. D'abord, un nouvel événement sportif annulé à cause du coronavirus, le tournoi de tennis d'Indian Wells en Californie. Il devait débuter aujourd'hui. Il y a ce qui s'arrête et ce qui reprend. Réouverture symbolique en Chine aujourd'hui où l'épidémie reflue un peu plus chaque jour. Le parc Disneyland de Shanghai a rouvert partiellement ses portes. Il était fermé depuis plus d'un mois. En Europe, des pays volontaires vont accueillir jusqu'à 1500 enfants migrants débarqués en Grèce, annonce cette nuit du gouvernement allemand. On ne connaît pas encore la liste des fameux pays volontaires. Programmé en janvier et repoussé à cause de la grève des avocats, le procès des incendiaires présumés de la préfecture du Puy-en-Velay s'ouvre aujourd'hui. Les quatre prévenus ont entre 21 et 37 ans. Le bâtiment, partiellement détruit le 1er décembre 2018, avait été l'une des images marquantes de la crise des Gilets jaunes.
En rugby, gueule de bois pour les Bleus après la douche écossaise.
Les Français, battus 28 à 17 à Édimbourg, ont raté l'occasion de réaliser le Grand Chelem après 3 victoires lors des 3 premières journées. Ça fait mal. Notre consultant, Christophe Dominici.
C'était l'année à attraper ce Grand Chelem et c'est difficile. c'est dur. Et cette équipe peut être avec un petit peu de fatigue mentale aussi, parce que ça joue. Hein. 4 matchs de très haut niveau, de la pression. Quand on est jeune joueur, on arrive au niveau international en équipe de France. Beaucoup de médiatisation autour de ça. Le pilier français qui était sorti avait eu un très bel article la veille. Dans les journaux où on parlait de ses performances et de son talent. Et à la sortie, c'est lui qui craque un petit peu sur un échauffouré. Donc on s'aperçoit qu'il n'y a pas que ce que l'on voit sur le terrain. Il y a cette partie invisible qui fait que le très haut niveau, ça se gagne dans la tête, dans l'émotion, dans l'énergie, dans cette capacité à rester froid dans les moments qui sont difficiles. En tout cas, si France-Irlande se joue, c'est là où on va voir la capacité mentale et transcendantale de cette équipe de France et surtout du staff à remobiliser les énergies dans 6 jours, parce que le match on le joue dans 6 jours, donc ça va être très rapide. Et les Irlandais qui n'ont pas joué vont arriver avec beaucoup de fraîcheur. On a perdu en Écosse, ça peut arriver, on peut passer à côté, mais le match décisif pour cette équipe de France, il est contre les Irlandais et on va voir comment on réagit après un échec surtout.
Christophe Dominici, consultant rugby d'RTL avec Eric Silvestro. Donc si le match France-Irlande se joue, car la rencontre pourrait être reportée en raison de la crise du coronavirus. En football, dernier mot, Lille remporte le morceau contre Lyon 1-0 à l'issue d'une 28e journée de Ligue 1 marquée par l'humiliation de Montpellier, battue 5-0 par Rennes, un partout entre Saint-Étienne et Bordeaux.
C'était donc le journal de Jérôme Florin.
RTL 8h12.